Bah là, clairement, tu vois, les retoucheurs, les photographes et tout, ça pue, hein. Enfin, soyons honnêtes, le milieu, là, il va se faire ravager. C'est... Faudrait se mentir, mais en fait, c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Et le fait de refuser d'observer ça, et de résister, et de dire, ah oui, tu vois, de rentrer dans ce truc de drama, ça va pas faire avancer le problème. Nous, en tant que professionnels, on a un besoin de comprendre ce qui se passe et de s'adapter. Pas forcément, je comprends que ça soit beaucoup d'émotions, et franchement, je l'entends, quoi. Mais il y a aussi un besoin de comprendre ce qui se passe avant tout, pour pouvoir rester dans l'air du temps, pour pouvoir rester sensible, pour pouvoir savoir ce que, à quelle sauce on va être mangé, ce que les clients ils vont vouloir, là où le milieu il va évoluer, tu vois.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pauline Goyard, photographe et directrice artistique. Si le logiciel Photoshop vous intéresse, il y a des chances que vous ayez déjà vu Pauline sur YouTube, notamment la chaîne de Adobe France. Avec elle, nous allons parler de l'avenir des métiers de l'image à l'heure de l'IA et également de créativité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant, en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Pauline et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour Fred. Oui, je suis Pauline. C'est toujours dur de se présenter en quelques mots quand on fait plein de trucs. Du coup, la réponse courte, c'est je suis photographe et directrice artistique. Et la réponse plus longue, c'est je suis hôte des émissions live sur la chaîne Adobe France où j'interviewe d'autres créatifs et je fais aussi des cours. Je donne beaucoup de cours de Photoshop, mais aussi un peu les autres logiciels. Je suis directrice artistique, donc du coup, je prends des projets photos, mais plutôt, tu vois, je vais prendre toute la stratégie, la création, le post-traitement. Et j'aime bien cette approche de tout faire et pas juste faire des photos. Donc, mais ça va être plus sur des projets très créatifs, des musiciens, des choses comme ça. Donc ça fait partie de mon activité. Et ma troisième activité, c'est je donne des cours particuliers de photos et de retouches. Et j'aide des photographes à réaliser ce qu'ils ont en tête quand ils sont coincés. Et ça, c'est trop cool, j'adore. Voilà.
Génial. Bon, on a le temps dans ce format, c'est ça qui est cool, hein, pour parler en détail un petit peu de tout ça. Et déjà, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, de comment t'en es venu à déjà faire de la photo et puis à te spécialiser dans cette thématique?
Eh bah écoute, moi j'ai pas vraiment un profil photographe traditionnel. Bon, je pense que tous les gens qui viennent te disent la même chose. Mais du coup, j'ai plutôt une formation de designer et de graphiste à la base. Et ma passion première, c'est comment on communique avec des images et comment on fait passer des émotions, une histoire en construisant une image. Tu vois, donc avec la composition, la couleur et tout. Il s'avère que la photo, c'est mon outil préféré. Tu vois, le dessin, ça me fait pas du tout marrer et tout, mais c'est plutôt tous les aspects visuels qui vont me plaire. Et je me suis retrouvée à faire des photos après 2-3 ans d'être graphiste et designer. En fait, ça me plaisait pas du tout. Ça me manquait vraiment d'avoir le contact avec les gens, d'avoir capturé des portraits, capturé des choses et ensuite construire des visuels à partir de ça. C'est vraiment ce qui me plaît le plus à partir de rien. Je trouve ça vraiment difficile. Donc, la photo, c'est mon outil préféré, mais c'est pas le seul truc de mon activité. Tu vois ce que je veux dire? Je suis photographe, mais plus, ou moins, parce que les photographes, ils vont dire, ah, c'est pas une vraie photographe, c'est trop digital, ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant l'approche que tu as de la photo parce que ça va à contre-courant de beaucoup de choses qu'on voit ailleurs. Et tu l'as dit, c'est la matière première, c'est la photo. Et après, c'est ensuite que ça va être transformé, amélioré. Et alors, les gens qui nous écoutent, qui font du studio, qui font de la photographie artistique, peuvent comprendre ça, le fait que le post-traitement va être une part vraiment présente et importante du rendu final. Un photographe de presse beaucoup moins parce que par défaut, enfin par définition, on prend moins de temps sur le post-traitement et on essaie de faire quelque chose qui ressemble le plus à du RAW, quoi. Comment tu le perçois toi et à quel point c'est important dans ton process créatif, tout ce qui se passe après?
Bah, du coup, c'est une bonne question parce que pour moi, c'est pas. Tu vois, pour moi, l'idée de base, c'est pas la photo. Pour moi, justement, la chose qui vient avant, c'est le fait d'avoir quelque chose en tête et de vouloir le réaliser. Et du coup, la photo, ça s'inscrit au milieu de ce process-là, d'autres choses. Et du coup, je me demande si c'est si différent que la photo de reportage, parce que est-ce que toi, tu pars pas parfois faire un reportage et tu as déjà une image en tête et tu vas essayer de la voir, tu vois?
Ouais, si,
C'est là.
forcément. Ouais.
Tu vois, et après la photo, ça devient ton outil, mais tu vas aller chercher, tu vas aller capturer un cadrage, une lumière, un truc, parce que tu veux raconter une histoire de cette manière-là. Donc en fait, c'est pas si différent, tu vois, le post-process, ça fait juste partie du. Ça te permet d'aller plus loin dans la création du message que je veux dire, mais c'est pas obligatoire, quoi.
Ouais, peut-être la différence, c'est ce côté refus ou critique même, parfois véhémente, de la retouche de l'image et de la. Tu sais, on parle même de manipulation de la vérité quand on dit qu'on va retoucher une image. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de grands prix photo, je pense au WordPress Photo par exemple, qui a régulièrement des scandales où quelqu'un a enlevé un oiseau dans le ciel ou un poteau ou. Tu vois, quand Steve McCurry s'était fait gauler à faire une retouche d'image sur Lightroom un peu grossière. Avec le, tu sais, le duplicate de trucs là. Et tout le monde est tombé dessus en mode, oh là là, comment oses-tu faire ça? Toi, comment tu perçois ça de ton côté?
Moi, je trouve ça marrant. Bah, après, je comprends la problématique de manipulation de l'image parce que quand t'es reportage, c'est un peu ton job de revenir et de capturer. Je vais mettre des énormes guillemets, mais une sorte de vérité documentaire et d'être témoin de quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une autre problématique. Moi, dans le fait de créer des choses artistiques qui sont plus de domaine de l'imaginaire et tout, j'ai pas du tout ce problème en fait. Moi, c'est juste. Peut-être que la différence, je suis juste reportage de ce qui se passe dans mon cerveau, tu vois, ça me permet d'aller capturer ce qui se passe un peu dans mon âme, quoi. Et du coup, on me le reproche jamais, enfin, vraiment, j'ai pas du tout ce même rapport à ça que je pense toi ou dans le milieu, c'est pas du tout quelque chose dont les gens me parlent comme étant genre, ah, tes photos sont trop retouchées et tout, je pense que c'est marrant. Bon, peut-être que ça va m'arriver, mais tu vois, je pense que. Il y a une compréhension que c'est deux choses différentes. Et puis là, bon, il y a aussi la guerre des IA qui vient d'arriver, donc ça va bien foutre le bordel dans les concours. On les a tous vus tomber depuis un an, là, les mecs qui ont gagné des concours alors que la photo n'existait pas. Enfin, c'est un bordel qui fait que de commencer, j'ai l'impression, ce sujet-là.
Ouais, bah partons direct là-dedans, si ça te dit, parce que effectivement c'est
Allez,
une
on attaque, on
thématique.
est chaud, patate, là, on est dans le
Le tour de chauffe est
l'actualité,
terminé.
quoi.
Mais justement, toi quand tu vois ça, quand tu vois une IA gagner, enfin bon, c'est pas l'IA qui gagne le prix, hein, c'est toujours le mec qui a écrit le prompt et qui s'est quand même arraché les cheveux plus de 10 minutes pour réussir à faire un truc correct, mais comment toi tu vois cette évolution de la créativité et de la création tout court?
Alors, je sais pas, t'as 5-6 heures devant toi
Vas-y,
là,
j'en ai même 12.
parce que. Non. Non, bah écoute, moi j'ai suivi. Là, alors, j'aime bien mon positionnement de designer parce que du coup, j'ai l'impression d'être plus large au niveau de là où je suis, ce qui se passe. Et donc, du coup, j'aime bien, je suis très curieuse de toutes les nouvelles choses. Tu vois, mes connaissances, c'est. Mon outil, c'est la photo, mais mes connaissances, tu vois, c'est. Ça va être la 3D, la réalité augmentée, toutes ces choses-là, ça m'intéresse en fait. Donc du coup, je suis un peu les dramas de l'IA depuis le début. Je pense que je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu confuse. Il y a des jours où franchement, ça fait flipper. Mais j'essaye aussi de prendre le recul et de comprendre ce qui se passe sans être complètement dans l'émotion.
Qu'est-ce qui te fait
Et
flipper?
bah là, clairement, tu vois, les retoucheurs, les photographes et tout, ça pue, hein. Enfin, soyons honnêtes, le milieu, là, il va se faire ravager. Faudrait se mentir, mais en fait, c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Et le fait de refuser d'observer ça et de résister et de dire, ah oui, tu vois, de rentrer dans ce truc de drama, ça va pas faire avancer le problème. Nous, en tant que professionnels, on a un besoin de comprendre ce qui se passe et de s'adapter. Pas forcément, je comprends que ça soit beaucoup d'émotions, et franchement, je l'entends, quoi. Mais il y a aussi un besoin de comprendre ce qui se passe avant tout pour pouvoir rester bah, dans l'air du temps, pour pouvoir rester sensible, pour pouvoir savoir à quelle sauce on va être mangé, ce que les clients ils vont vouloir, là où le milieu il va évoluer, tu vois. Donc, c'est pas. je trouve ça pas simple. Je pensais, par exemple, si on peut revenir genre 200 ans en arrière, quand tu regardes l'histoire de l'art et la photo, alors tu vois, l'histoire de l'art, c'est quasiment toute l'histoire de l'humanité. Enfin, tu vois, je vais dire quelques grosses conneries, mais je caricature. Les artistes, ils avaient une volonté de représenter la réalité du mieux possible. Tu vois, c'était le meilleur artiste, c'était celui qui faisait la peinture la plus réaliste possible, tu vois. Et là, il y a la photo qui est arrivée. Et en fait, ça a révolutionné l'histoire de l'art. Les gens ont un peu oublié ça, tu vois. Et il y avait tous les portraitistes qui étaient chargés de peindre des gens d'une manière réaliste. Bah là, c'était pareil. Il s'est passé un truc. Ça a vraiment créé une fracture, tu vois. Donc, on ne peut pas oublier que la photo, à un moment, elle a eu ce rôle d'évolution dans la société, tu vois. C'est juste que bah, maintenant, nous, c'est nous, en fait, les portraitistes chargés de peindre la réalité. Ce qui s'est passé après ça, c'est que comme il n'y avait plus aucune raison de peindre la réalité, en fait, il y a eu une évolution qui s'est passée dans l'histoire de l'art et les artistes ont commencé à voir le monde différemment. Ils ont commencé à observer l'abstraction et c'est là qu'il y a l'impressionnisme qui est apparu. C'est là où il y a eu la création de tout ce qui est l'abstraction, le minimalisme, carré blanc sur fond blanc, Malevitch, enfin. Tout ça, c'est arrivé parce que la photo s'est réveillée. Et en fait, à partir de là, la révolution de l'histoire de l'art, elle s'est hyper accélérée. Donc, avec ses hauts et ses bas, tu vois, je dis pas que c'est bien. Et tu vois, c'est beaucoup d'incompréhension, l'art contemporain. Mais en fait, ça vient de... La photo est arrivée, il n'y avait plus aucune raison de représenter la réalité. Donc là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu un truc dans le genre, tu vois, c'est ça. Donc, à quelle sauce on va être mangé? Est-ce qu'on a envie de rester les portraitistes qui s'accrochent à leur bout de gras de il faut que je continue à présenter la réalité et tout, alors qu'en fait, voilà, ou est-ce que c'est aussi une occasion de se questionner sur ce qui se passe et de réinventer l'outil et tout? Ça, j'ai pas la réponse pour vous. Mais je voulais juste apporter un peu de distance en fait par rapport à ce qui se passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah mais carrément, le contexte est important, tu l'as bien dit. Alors moi j'avais pas fait le lien effectivement entre l'arrivée de la photo et le changement de paradigme pour les... Enfin pour le portraitiste qui se retrouve au chômage parce qu'il peut plus faire des photos de portrait, c'est un peu comme si c'était un photographe de portrait, enfin un portraitiste tu vois, qui se retrouve avec plus de clients parce que les clients peuvent se prendre en photo eux-mêmes. Ou du
Ouais, c'est ça.
moins font appel à un photographe. Mais j'avais pas fait le lien avec le fait que du coup ben tu changes d'avis, tu vas dans... Enfin tu changes d'orientation et tu vas aller... inventer de nouveaux styles, je pensais que ça serait décorrélé, tu vois, de la photo. Mais
Moi, je pense que ça dépend de pourquoi tu fais des photos. Tu vois, et c'est ça où... C'est là où j'ai envie de rester optimiste et je pense qu'on a besoin du regard des photographes. C'est juste qu'il faut être prêt à ce que les outils... Il change d'une manière complètement brutale. Et tu vois, je pense que l'appareil photo tel qu'on le connaît, l'image plate en 2D sans mouvement, enfin, je trouve qu'à notre époque, je vais pas dire qu'elle a plus aucun sens, mais elle a plus autant de valeur que c'était le cas il y a 20 ans ou il y a 10 ans avec les réseaux sociaux, les vidéos partout, dans les vitrines, il y a des télés partout. Enfin, tu vois, de toute façon, il y avait déjà cette évolution-là vers l'image en mouvement, tu vois. Et maintenant, quand tu vois que Apple a sorti la semaine dernière leur casque VR, je sais pas si tu as vu, mais sur le casque VR, il y a ce truc, il y a ce petit appareil photo qui va capturer l'espace en 3D et la scène en mouvement et tout. Donc en fait, pour moi, ça, c'est ce qui va se passer, tu vois. Ça va être une forme de photo, tu vois. Tu peux pas nier que c'est pas de la photo, c'est juste que c'est plus la photo telle qu'on la connaît. Et je pense que là-dedans, il y a des trucs pour s'amuser de ouf, tu vois, genre... T'es plus limité par ton cadre, enfin, t'es plus limité par ta petite photo, tu vas pouvoir créer tout l'environnement. Toi, t'imagines le pouvoir que ça a dans un reportage de guerre, enfin, t'as une immersion totale dans le truc, et les gens vont pouvoir aller se plonger dans l'expérience de ce que les gens vivent, tu vois. Donc c'est pas rien, quoi, il se passe des trucs de ouf. Et vouloir rester enfermé dans sa petite photo, là, telle qu'on la connaît, je pense que c'est ça l'erreur, en fait. Il y a des trucs cool qui se passent ailleurs. T'as vu, c'est la passion qui se met à parler, là.
Mais tant mieux. Non, mais c'est génial. Mais en fait, on est d'accord sur plein de trucs, hein. C'est pour ça que c'est pas vraiment un débat. Mais tu vois, il y a un truc, c'est moi, je suis ultra optimiste et ça me fait pas peur du tout dans le sens où bon après, je suis pas concerné. Enfin, moi, je me sens pas concerné par la question du remplacement ou parce que je reste persuadé. Peut-être que c'est faux, mais là, ce que tu dis, ça vient conforter un peu ce que je vais dire, c'est que pour un journaliste, Et en plus, quelqu'un qui va partir sur une zone de conflit, par exemple, tu deviens irremplaçable. Tu peux être amélioré par des outils, comme tu l'as dit, de la VR, mais ce qu'on fait déjà plus ou moins, parce qu'on est passé de, tu vois, Robert Capa avec ses 38 poses dans sa péloche sur les plages de Normandie, à aujourd'hui, t'es un smartphone, et moi, tu vois, il y a
Ouais.
quelques semaines, quand j'étais pas loin de Bakhmout, on se retrouvait avec Starlink. Le réseau Starlink qui permettait d'être sur Facebook dans une zone où t'as plus de 3G et c'est des bombardements H24. Là, tu dis en fait la
Ah ouais.
technologie, elle te permet de. Tu peux faire des tweets, des machins. Et du coup, tu fais véhiculer l'information plus vite. Mais le truc important dans l'histoire, c'est que l'IA, tu l'as dit, ça restera toujours une. Enfin, c'est pas la réalité. Est-ce que c'est pas la différence qu'il y a avec l'histoire des peintres et des photographes? C'est-à-dire que les photographes ont amené plus de réalisme et de réalité. On prend en photo la réalité, enfin, le monde réel. Et là, on laisse du coup au peintre l'univers plus de la fiction et de la création du monde pas réel, même si on s'en inspire. Tu vois, est-ce que l'IA, c'est pas différent dans le sens où l'IA, c'est pas le réel? Même si ça s'inspire du réel, c'est toujours une sorte de. Tu sais, on va chercher du réel pour l'utiliser un peu en mode patchwork,
Ouais.
pour créer quelque chose qui justement n'existe pas. Et du coup, est-ce que ça donne pas plus de crédit à un photographe qui lui va s'intéresser. Encore plus au réel, tu vois.
Bah, du coup, c'est vrai, t'as raison, c'est hyper intéressant. Moi, là, quand tu me dis ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu étrange ce que je veux dire, mais il y a quand même une grosse crise du réel. On est quand même beaucoup sur nos écrans, on vit quand même notre monde virtuel, et il est quand même devenu de plus en plus présent, et tous les ans, on passe plus de temps dessus. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que les opportunités vont être moins dans le réel et plus dans la sphère virtuelle, dans ces mondes en VR, dans ces mondes en 3D, dans ces mondes, tu vois. Et c'est là où, bah, ouais, tu vois. Là, je peux pas prédire le futur, mais j'ai quand même la sensation que il y a quand même une volonté de s'échapper du réel, tu vois. Et c'est là où, en tant que photographe, bah, comment tu te positionnes? Est-ce que tu créer un monde surréaliste, ce qui est plutôt moi, ou est-ce que tu restes attaché au réel et à le documenter, et dans ce cas-là, c'est plutôt toi, tu vois?
Ben, carrément. Mais dans ce cas-là, est-ce que le réel va pas devenir un peu un peu le côté, tu sais, qui est extrêmement puissant, le côté nostalgique, le côté culte, le côté, tu vois, comme par exemple, on voit renaître la mode de l'argentique et des Polaroids, tu vois, tu as des constructeurs qui se remettent à faire du Polaroid, dans les mariages, tu vois, il y a des prestations où les mecs, ils créent des box et puis les gens, ils se font prendre en selfie, ils ont un petit format papier, puis ils sont ultra heureux. C'est la photo que tu mets sur le frigo. Est-ce que dans un univers où à la Ready Player One, tu vois, où on sera tous avec un casque de VR et que on vit notre second life H24 qui est mieux que notre première vie, est-ce que du coup le retour au réel sera pas encore plus important et le fait d'avoir des compétences de photographe dans le réel garde pas du sens selon toi?
Ouais, bah là, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Là, c'est pareil. Enfin, depuis le début, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas du tout si j'ai raison et tout. C'est vraiment ce que j'observe et que j'essaye de comprendre. Moi, je pense que là, comme il y a une excitation sur la nouveauté, ça va ravager une grosse partie du métier. Tu vois, tous les gens qui arriveront pas à s'adapter, tu vois, qui seront pas capables d'aller plus loin que l'outil et que leurs compétences techniques. Bon, bah, c'est chaud, tu vois, c'est ça. Donc, en fait, tu dis, il y a peut-être 90% des gens qui vont disparaître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va être des nouveaux métiers qui vont arriver, genre les mecs qui vont être super forts à bosser avec l'IA, à parler avec le truc. Tu vois, donc, eux, ils vont avoir des compétences super particulières. Je pense que ça va décourager plein de gens d'aller se lancer dans l'apprentissage de la technique. Tu vois, donc, je pense, moi, ce que je vois arriver, c'est des gens. Le milieu qui se fait ravager. Et quand je te dis ça, c'est tout le monde, c'est pas juste les photographes. Ça concerne aussi les illustrateurs, ça concerne aussi la vidéo. Ça, c'est hyper large. Hein. Là, les artistes 3D, tu vois, ChatGPT, là, les copywriters, c'est chaud. Mais aussi, bah, il y a tous les gens qui vont quand même développer des vraies compétences quasiment d'artisanat qui vont avoir tellement de valeur. Moi, je prévois dans 10-20 ans que, en fait, du coup, comme tout le monde a la flemme d'apprendre à faire le vrai truc, si toi, t'es capable de faire un vrai produit qui est nickel de dessiner avec tes petites mains pendant des heures et de continuer à avoir la valeur de ça. Ouais, je pense que il va y avoir un regain pour une forme d'artisanat, tu vois. Mais c'est ma prédiction, quoi. Mais il va falloir quelques années encore. Là, pour le moment, on est encore en recherche d'équilibre, quoi.
toute façon, l'histoire, elle nous donne, elle donne raison à cette vision des choses, parce qu'à chaque fois qu'il y a une innovation technologique, technique majeure, tu vois, l'arrivée de l'appareil photo, l'arrivée de l'appareil photo numérique, l'arrivée d'Internet, il y a jamais vraiment eu de, il y a toujours une destruction, une
Ouais.
vision schumpeterienne, quoi, il y a une destruction créatrice, mais au final, même la destruction, elle est quand même super. Enfin, dans l'histoire, tu regardes, il y a certains trucs qui montrent que la destruction, elle n'est pas si énorme que ça. Tu prends, l'autre jour, je m'enseignais, je regardais quelqu'un qui parlait de l'arrivée de Excel. Tu vois, quand Excel est sorti,
Ah.
t'as tous les comptables qui étaient en PLS. Tu vois, ils étaient en mode, ah oh, putain, en fait,
Ouais.
notre métier va plus servir à rien. En fait, la machine, elle compte pour nous. Et en fait, quand tu regardes les stats, ben, la courbe d'emploi des comptables, ben, elle est toujours en augmentation. Tu vois.
Ouais.
Et en
Ah, c'est
fait, les
intéressant.
mecs ont réinventé leur métier. Ils se sont dit, bon, ben, en fait, ok, on va arrêter de vendre notre compétence première comme étant des mecs qui font des tableurs, quoi, parce que bon, les mecs peuvent le faire chez eux maintenant. Mais par contre, on va leur montrer comment optimiser, comment on va faire du conseil. Tu vois.
Ouais, c'est cool. Bah, c'est ça, c'est si je pense que si ta compétence est juste technique et que tu t'accroches à ça, t'es un peu mal. Moi, j'aime bien aussi l'exemple, tu vois, comme je suis designer aussi, il y a un peu l'histoire du graphisme. Et quand tu regardes, enfin, c'est con, mais il y a 30 ans, tous les journaux étaient faits à la main. Et il y avait un mec dont le taf, c'était de tirer des traits droits et de faire les cadres, tu vois. Et tu t'écrivais ton article et il devait commander, il tirait. Des lignes qu'ils allaient coller et après ils flashaient la page et pour sortir ton journal, ils bossaient toute la nuit. Et tu vois, il y a les Mac qui sont arrivés et qui ont révolutionné la mise en page. Et bah là, en fait, le mec qui tirait ses traits, il y a deux solutions. Soit il dit putain, je me fais remplacer, c'est pas cool, et moi je voulais tirer des traits toute ma vie et c'était ma compétence technique, tu vois. Soit bah, son amour c'était de bosser pour des journaux et en fait il a trouvé un autre moyen de bosser pour eux et de développer d'autres compétences. Donc c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il y a deux chemins quoi.
Bref, il aurait pu faire comme tous les Français, aller brûler des pneus sur un périph.
Au moins jour des saucisses.
C'est ça, exactement. Et en caillassant les taxis et tout ça.
Ouais, moi je serais super curieuse de ce que les gens pensent et qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Moi, je comprends toutes les inquiétudes et vraiment j'en fais partie, mais j'essaye de voir, essayer de prendre un peu de recul et d'être moins dans l'émotion et de voir les possibilités, quoi.
Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un truc très très pragmatique. C'est par rapport au... Voilà, t'es déjà dans le pragmatisme. Mais
Allez.
sur la question du modèle économique, autant pour un photographe qui fait du studio, du mariage, de la presse, on voit le modèle économique de façon assez évidente. On a un client, on lui vend un truc, enfin on voit les besoins, etc. Maintenant, sur la question de la direction artistique, sur la photo... D'ailleurs, est-ce que tu te définis comme plasticienne? Tu utilises ce
Non.
terme? Non?
Non, pas du tout. Parce que tu vois, moi je me considère pas comme artiste parce que je me sens plus designer, tu vois. Si je schématise la différence avec artiste, c'est tu fais un peu ta life et t'en as rien à foutre et tu crées juste tes trucs. Et designer, t'es toujours au service d'un message, d'un client, de quelque chose. Et le but, c'est toujours de communiquer, de leur aider à communiquer quelque chose.
D'accord. Mais
Tu vois, c'est plus ancré dans une utilité, quoi.
ouais. Est-ce que tu présentes sur ton compte Instagram, par exemple, j'invite les gens qui nous écoutent là, à aller sur Instagram en même temps, parce qu'on peut faire deux trucs à la fois. C'est ça qui est bien avec les podcasts. Sur ton compte sur Pauline Goyard, est-ce que tu peux nous. C'est quoi le modèle économique que toi tu as mis en place pour vivre de tes créations?
Bah, du coup, moi, quand j'habitais en France, j'avais un studio de portraits. Et du coup, je faisais des portraits et c'était ça mon modèle économique. Et après, en fait, j'en ai eu ma claque. Genre, vraiment, c'était. Je pouvais plus. Tu vois, j'ai fait mon petit burn-out des familles et tout. Et du coup, je suis partie. Et c'est là où, du coup, je me suis rendu compte que moi, faire du portrait-portrait, c'était pas. J'aime bien, mais il faut que ce soit vraiment. Des projets très particuliers. Et du coup, c'est là où, du coup, mon modèle économique, je l'ai plus diversifié. Et d'ailleurs, j'étais très contente parce que le Covid est arrivé et je me suis rendu compte que j'étais très contente de ne pas avoir un studio de portrait, tu vois. Et du coup, moi, mon modèle, il est. Donc, je suis à distance, je travaille à l'étranger, tu sais. Et du coup, ça va être ces hostings pour Adobe, ça va être pas mal de formations, ça va être le fait de donner des cours particuliers. à d'autres photographes. Et après, je vais voyager pour avoir des projets spécifiques, particuliers, que là, je choisis et qui sont vraiment des gens avec qui j'ai envie de bosser et de créer des trucs, tu vois. Et la partie artistique, du coup, c'est hyper cool parce que moi, ça me permet d'explorer et de tester des trucs, tu vois. Et après, avec cette exploration, alors avant, je les faisais genre pour rien, et maintenant, j'arrive à plus dire, bon, bah, du coup, je vais présenter une technique Photoshop sur un live. Enfin, tu vois, j'essaye de toujours rapporter la création à enseigner un truc, ou tu vois, on n'est pas obligé de faire juste de l'art pour de l'art, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. J'ai mis du temps à comprendre ça. Voilà.
Quand tu dis j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est quoi? C'est lié à une vision de l'argent, une vision du business, une vision de quoi?
Bah, tu vois, il y a toujours je sais plus trop en photo, mais ouais, c'était une vision de l'argent. Et tu vois, par exemple, en graphisme, en illustration, tous ces mondes-là, t'as l'impression, même tu vois, j'ai quelques potes réalisateurs, t'as l'impression que t'as les projets perso et t'as les projets pro. Et en fait, tu sais, c'est deux trucs qui sont hyper séparés. Et en fait, maintenant, j'arrive vraiment à les lier, quoi. J'ai l'impression que tout est un projet professionnel. C'est juste que parfois, j'ai plus de liberté. Mais je vais toujours réfléchir à un moyen de monétiser un projet perso. Tu vois, je ne fais plus faire quelque chose pour juste rien et passer un après-midi à faire des photos cool. Ce qui était très bien parce que ça m'a quand même permis de me former, d'expérimenter, de tester des choses et d'avoir le droit à l'erreur. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de plus réfléchir en termes de bah, qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent tout le temps, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi, t'as ce truc de projet perso et projet pro, où t'arrives à avoir que des projets pro, tu vois? Est-ce que des fois, tu t'as pas envie de dire, ah, il faudrait que j'ai ça pour avoir mon portfolio, tu vois, pour attirer d'autres clients?
Ouais, bah, en presse, c'est un peu lié en fait, parce que tout ce que tu fais, tu sais jamais vraiment si tu vas vraiment le rentabiliser. Alors tu mets toutes tes chances de ton côté, tu réfléchis à différents angles et tout, mais si tu acceptes pas dès le départ que ce que tu vas faire ne peut ne rien te rapporter, en fait tu fais jamais rien. Donc du coup, moi j'ai adopté le mindset qui consiste à dire je réfléchis à un max de solutions pour rentabiliser le projet dès le départ, mais j'accepte complètement que ça rapportera rien. Mais en fait, ça rapporte toujours quelque chose parce que surtout en photojournalisme, parce que tu es là pour, selon les sujets que tu choisis, tu documentes un petit peu l'histoire, tu vois. Ça fait un peu pompeux de dire ça, mais après, quelques années plus tard, tes photos, elles sont achetées pour être dans des bouquins, dans des manuels d'histoire pour le lycée ou le collège, tu vois. Ou
Ouais, c'est intéressant.
elles vont être achetées comme archives pour documenter un truc. Donc du coup, tu travailles jamais vraiment pour rien. Bon, sauf si tu t'allonges dans l'herbe et que tu fais des photos des nuages, quoi, mais...
Franchement, alors même ça, du coup, c'est pour te dire, cette année, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que je me suis vachement ouvert aussi aux possibilités. Et par exemple, quand je me forme sur quelque chose de nouveau, donc là, je me forme sur des nouveaux logiciels, dans cette idée de il faut que j'ouvre mes compétences, j'essaye d'implémenter plus de vidéos et tout. Et quand je fais des essais vidéo où je me forme, bah, comme ça fait 15 ans que je fais ça, donc tu vois, genre, mes résultats, ils sont pas un truc de débutant, et ben en fait, je mets tout sur des sites de stock. Et du coup, je gagne de l'argent grâce au truc où en fait j'ai passé 3 heures à me former sur quelque chose. Donc en fait, je vous invite à réfléchir à. En fait, vous pouvez toujours vendre votre truc, quoi. C'est hyper important, quoi.
Sur les stocks, t'as combien d'images qui sont diffusées? À peu près?
Alors j'ai pas grand-chose là. C'est une amie qui lance son truc. Donc c'est pour le moment, c'est assez restreint. Il n'y a pas grand monde dessus et ils sont très sélectifs. Et du coup, c'est de la vidéo, c'est des formats verticaux comme ça. Et j'en ai pas beaucoup, mais tu vois, j'ai commencé il y a 3 mois et ça va être 200 € par mois. Donc, tu vois, c'est pour un truc où je suis en train d'apprendre et de filmer des nuages, comme tu disais, tu vois.
Génial. Tu diffuses pas sur Adobe Stock ou genre de trucs?
Bah, en fait, leurs critères, ils sont très sélectifs. Donc, là, dans ma liste, j'ai tous les trucs qui sont faits refuser. Je vais aller les mettre sur Adobe Stock et, tu vois, et les autres sites. Parce qu'ils sont aussi très exclusifs. Donc, tu peux pas mettre tes vidéos chez eux et chez quelqu'un d'autre. Donc, mais oui, carrément. Et ça coûte rien. En fait, avant, j'étais résistante à ce genre de truc. En fait, ça coûte rien. C'est juste au lieu d'aller télécharger, laisser un peu son ego de côté et dire, ah, c'est cool, en fait, t'as du revenu passif.
Bon, on a parlé un petit peu alors pas trop dans le podcast, mais dans des formations avec Béatrice qui est une des photographes du collectif DR de mon agence, qui vit du stock en fait. Elle
D'accord.
a un revenu régulier qui est vraiment important en termes en termes de chiffres et notamment sur Shutterstock, Adobe Stock. Et justement, on avait parlé de ça sur la question de mettre l'ego de côté et de se dire que même si c'est quelques centimes, quelques euros, quelques dizaines d'euros par-ci, par-là, en fait, c'est du revenu passif, ça se multiplie, enfin, ça s'additionne, ça se multiplie, ça devient plus ou moins exponentiel. Et en fait, c'est. Alors après, il y a tous les gens qui vont avoir les poils qui se hérissent quand on dit ça. Mais l'idée du stock, en fait, c'est que, en gros, c'est une demande, enfin, c'est une offre pour une certaine demande. Et du coup, il y a. On le voit même dans la presse, il y a de plus en plus de journaux, de grands journaux, tu vois, je pense au Figaro, La Croix, Les Échos, etc., qui achètent de plus en plus des images de stock au lieu d'envoyer en commande des photographes. Mais en fait, aujourd'hui, ça a plus de sens de payer un mec en commande pour aller faire des photos d'une touche de clavier ou d'une fiche de, une fiche d'impôt ou une photo de nuage ou.
Carrément. Voilà, donc ça, bah, tu vois, par exemple, l'AI, c'est là qu'elle va trouver vraiment son utilité. Et d'ailleurs, bah, du coup, deux choses là-dessus. C'est que pour moi, le stock, je le vois comme un truc long terme. Tu vois, je me dis, je prends 2 jours par mois pour créer des visuels que je vais mettre sur du stock. Et je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, ça va s'accumuler. Tu vois, si 2 jours par mois, j'ai ces visuels et que je commence à les cumuler, j'y pense pas. C'est juste, allez, 2 jours par mois, on fait ça, on met tout. Et en fait, on ne sait pas où ça va donner. Tu vois, c'est un investissement un peu long terme, quoi. Ça, évidemment, ça va faire effet boule de neige. Le deuxième chose qui est important pour les photographes qui nous écoutent et qui ont leurs images sur Adobe Stock ou qui réfléchissent et qui se disent que c'est pas la peine, machin, avec l'AI, en fait, Adobe est en train de créer une utilisation de l'intelligence artificielle qui est hyper éthique. Et en fait, toutes les images que tu crées avec leurs retouches magiques dans Photoshop, donc tu vois, l'outil de génération de contenu, machin, en fait, ils utilisent les images de Adobe Stock comme source de création de ces nouvelles images. Et leur but avec ça, c'est que ce soit commercialement viable, que vous pouvez les utiliser professionnellement et que toutes les images soient sourcées. Et donc, les images qui seront utilisées par Adobe dans la librairie Adobe Stock, ça veut dire que les auteurs seront rémunérés. Tu vois? Donc, c'est aussi hyper intéressant. Tu vois? C'est pas la fin de Adobe Stock. Au contraire, parce que plus ils auront d'images sur leur site, plus leur IA, elle sera fine. Et c'est pour ça que les trucs de Adobe sont si moches en ce moment. Je bosse sur Adobe, mais je le dis, tu vois. C'est parce que, en fait, par exemple, des IA comme Midjourney et DALL-E, ça utilise à peu près toutes les images de l'Internet. Donc, c'est des milliards et ils sont en train de voler complètement tous les artistes, tu vois. Tu peux recréer des trucs, enfin. C'est assez compliqué. Alors que là, Adobe, bah, ils utilisent, je crois qu'il n'y a que 300 millions sur la librairie Adobe Stock, mais avec cette volonté de rémunérer les artistes, de savoir d'où ça vient, de machin. Donc voilà. Pourquoi c'est important de rappeler ça.
Toi, tu considères que c'est du vol quand tu t'inspires comme ça ou quand t'as une IA qui va piocher des inspirations un peu partout?
Bah, c'est compliqué, tu vois. Là, j'ai pas la réponse, mais franchement, tu vois, je suis tout ce qui se passe et je suis les dramas. Et il y a un mec qui a demandé à ce qu'il enlève ses photos ou sa création de l'IA. Et Midjourney lui a demandé de payer. Tu vois, il était là, genre, mais mec, en fait, c'est mes images. Tu vois, donc en fait, pour le moment, c'est tellement un vide juridique, c'est tellement le Far West. Et il y a aussi beaucoup. Alors, les photographes, ça commence là, depuis que c'est devenu vraiment réaliste, Midjourney, je trouve que ça commence à puer un peu pour nous. Mais franchement, depuis le début, c'est les illustrateurs, tout ça, c'est vraiment chaud parce que tu tapais juste un truc en disant dans le style de machin, et ça y est, c'était fini. Les mecs, enfin, ça va être chaud pour eux d'avoir du travail, vraiment, tu vois.
Je vois. On a parlé dans un précédent podcast avec le président de l'UPP,
C'est
avec
quoi
Mathieu.
l'UPP?
C'est l'Union des photographes professionnels. Toi, t'es
Ok,
parti de France il y a trop
donc
longtemps.
je n'en fais pas partie.
Je sais pas s'ils prennent les expats comme toi. Non, il faut s'intéresser à ça, c'est vachement bien. Et on parlait justement de ça, du fait qu'eux, ils voulaient aussi se battre justement pour faire reconnaître les droits des photographes. À avoir leurs images utilisées dans la génération d'images avec des prompts et tout. Et je t'invite à l'écouter. Alors, il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais je t'enverrai le lien. C'est vachement intéressant, justement. Pour venir sur la question des. Tu parlais justement de Photoshop qui avait lancé de nouvelles fonctionnalités pour générer, pour faire de l'IA à l'intérieur même d'une création. Ça, c'est un truc de dingue. En gros, tu pars d'une photo, puis tu tapes un prompt à l'intérieur de ton logiciel, et puis tu vois ta photo évoluer en fonction de l'IA, quoi.
Ouais, c'est un truc de dingue. T'as vu, c'est sorti il y a 2 3 semaines. Là, ça va changer. Je pense que ça va évoluer super vite. Pour le moment, ça, je trouve que ça a des usages hyper limités et ça s'inscrit quand même dans un workflow complet. Tu vois, par contre, c'est vrai que par exemple, il y a des trucs hyper intéressants. J'ai donné pas mal de cours particuliers à des photographes aquatiques. Je pense que comme ils sont potes entre eux, ils m'ont tous recommandé, tu vois. Et par exemple, dans mes cours, on m'a beaucoup demandé comment on recréait un reflet joli, tu vois, à la surface. Alors, les nanas avec les robes jolies et comment on fait un reflet. Et bah, par exemple, si tu veux faire ça avant dans Photoshop, c'est quand même un process qui te prend allez, entre 15 minutes et 1 heure, tu vois. Et moi, mon explication pour le faire, c'était 1 heure de cours et c'était regarde là là. Par contre, tu as un contrôle complet. Là, maintenant, tu peux sélectionner la zone et dire tu peux me faire un reflet de la meuf là? Et le truc, il te fait un reflet. C'est Et tu vois, c'est hyper déroutant. En même temps, moi, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé. Par exemple, ça, bon, bah, avant d'avoir le reflet que tu veux, bonne chance, t'as quand même pas encore le contrôle que t'as quand c'est toi qui construis ton image de A à Z. Et puis, bah, c'est pareil, ça remplace pas l'idée, ça remplace pas la vision, ça remplace pas ta composition, ça remplace pas ta lumière, ça remplace pas ton truc. Tu vois, ça s'inscrit dans un workflow où t'avais besoin de faire un truc et ça le fait plus vite. Mais ouais, donc c'est ça. Donc, pensez pour les retoucheurs, parce que vraiment, il y a des trucs qui sont impressionnants. L'agrandissement des images, là. Mais là, pour le coup, enfin, tu vois, moi, si je devais retoucher des trucs, c'était hyper impressionnant de faire des tests sur les agrandissements, là, tu sais, rajouter du décor autour. Parce que ça, c'était, je trouve que c'est vraiment. Moi, déjà, ça me rend très contente parce que j'ai toujours eu des studios trop petits, donc il a toujours fallu que j'agrandisse mes putains de fonds et ça m'a toujours pris trop de temps. Mais là, le truc, il te fait un job qui est mieux qu'un retoucheur. Et en 30 secondes, sur un taf où on y aurait passé 10 heures avant, tu vois. Et là, ça fait genre. Ouais, ok, les retoucheurs, c'est chaud pour leur taf, tu vois, parce que là, clairement, ils sont en train de perdre pour leur métier.
Pour apporter une nuance à ça, est-ce que tu penses pas que bon là on a l'esprit, on est un peu en mode FOMO quoi, on a l'impression de il y a la hype et tout autour du projet, enfin tu
Ouais, ouais.
on a l'impression de découvrir un tour de magie quoi quand on voit le truc. Maintenant quand on commence vraiment à creuser le truc et à se dire ok est-ce que je peux monter un business par rapport à ça, est-ce que je peux confier vraiment tout à l'IA de façon automatisée sans être derrière et tout. Tu te rends vite compte quand même que pas trop quoi, que c'est pas non plus ultra au point. Et tu vois par exemple sur
Bah ouais.
Midjourney, moi je l'utilise à titre personnel pour mon magazine parce qu'il y a certaines photos qui sont compliquées à trouver et je me dis ça peut être intéressant de les générer tu vois. Si tu demandes à Midjourney de générer une photo d'un djihadiste en tenue noire avec une Kalachnikov dans les mains,
Ah là, ça
t'as
y est, il va pas être d'accord. Avec une meuf toute nue à côté, c'est ça, en plus.
On reste
Ouais, il y a de
sobre,
la
mais tu vois,
censure de dingue.
quand tu veux
Ouais,
illustrer un papier sur la géopolitique et que tu parles du Sahel et des djihadistes,
ouais.
tu vois, tu peux pas dire, bah, dessine-moi un Winnie l'ourson, quoi.
Ouais. Ouais.
Et donc là, et même si tu contournes, tu lui dis une arme dans les mains, machin, il te fait des armes avec des chargeurs sur le dessus, enfin, un truc qui n'existe pas et tout.
Ouais.
Et du coup, tu vois que c'est pas encore au point. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que tu penses que l'IA va devenir. Enfin, le logiciel va devenir tellement bon, la machine va devenir tellement bon qu'au final, l'interface homme-machine va être de plus en plus simplifiée dans le sens où tu dis un truc et elle va vraiment faire le truc exact et t'as pas besoin de faire, tu vois, d'écrire un prompt parfait. Ou est-ce que il y aura encore besoin d'être un vrai prompt ingénieur, tu vois, quand tu vois les photos qui claquent en IA, le prompt il fait 12 km le mec va même mettre F35, tu vois, F28, tout ça, dans le prompt pour faire un truc vraiment quali. En gros, dans ce process de destruction créatrice, est-ce que tu penses que vraiment le retoucheur, il va crever dans le sens où le mec lambda va pouvoir le faire, ou est-ce qu'il y aura quand même besoin de lui avec un upgrade de compétences, tu vois?
Est-ce que c'est la même personne? Parce que genre moi là, aller me former sur taper des prompts de 30 pages, franchement, ça me fait pas marrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est ça en fait, ça faut juste poser la question de ce qu'on a envie de faire. Est-ce que l'IA, ça vous rend super content et vous voyez ces possibilités, vous avez envie de vous former là-dedans? Auquel cas, oui. J'ai déjà vu des annonces passer où il y a des gens qui cherchaient à payer des prompts d'artistes, quoi. Donc oui, ça arrive. Est-ce que c'est les mêmes personnes? C'est là où du coup ça se complique. Tu vois. Après, ce que tu disais sur les djihadistes et tout, moi je trouve que la limite à tout ça et à globalement ce qui se passe sur Internet, c'est quand même la putain de censure. Tu peux rien taper. Enfin, c'est quand même un truc super élite. Quand tu regardes les images d'Adobe Stock, c'est déjà le monde très très lisse, des bureaux corporés tout blancs et des gens bien éclairés. Donc en fait, ça enlève aussi une partie de créativité. Tu vois, si tu restes enfermé dans cette IA, c'est compliqué parce que bah moi tu vois je photographie que des gens à poil qui partent en morceaux ça va pas c'est des trucs qui fonctionnent pas en fait tout est très 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 censuré quoi et même dans Photoshop hein, tu essayes de taper fille toute nue machin tout de suite c'est mal enfin c'est quand même dominé par des boîtes américaines super puritaines et tout donc t'es voilà t'as aussi cette question-là donc ça je suis curieuse de voir ce que ça va donner tu vois. Ouais, c'est pas simple, hein.
Alors, comment ça se fait qu'Adobe ils aient kiffé ton travail du coup de meuf à poil complètement découpée
Bah écoute, ils sont très cool. Ils me laissent parler de ce que je veux, avec qui je veux, et c'est quand même. Alors, moi, je trouve, ça fait 3 ans, et je trouve qu'ils incarnent vraiment ces valeurs. Tu vois, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que c'était que du marketing, mais ils ont vraiment ces valeurs de féminisme, d'ouverture, d'inclusivité, et c'est hyper important. Et même sur les lives, on a toujours fait en sorte que ça se passe bien. Il y a toujours eu cette volonté d'avoir des invités hyper diversifiés, de parler de tout, de. Évidemment, ils invitaient pas mal de gens dans la trend, qui font des trucs colorés et tout, mais à chaque fois que j'ai proposé des invités qui faisaient des trucs un peu plus alternatifs, ça n'a jamais été un problème. Mais montrer justement tous ces aspects de la créativité, et c'est quand même super cool. Donc c'est bien, j'espère que ça va durer.
Tiens, parlons un peu de d'inclusivité et tout ça. Sur le podcast, quand je diffuse un peu le podcast autour de moi, les gens, une partie des gens me font le reproche de ne pas avoir assez d'invités femmes.
Ok.
Et ce qui est le cas, hein, globalement, il n'y a pas eu énormément de femmes dans le podcast, pas par choix, hein, de ma part, au contraire, mais parce que c'est compliqué. J'ai eu pas mal de retours, enfin de refus de femmes photographes pour passer dans le podcast parce que elles se sentaient pas forcément légitimes ou parce que elles n'avaient pas envie, tout simplement. Est-ce que toi tu peux partager un petit peu ce qui t'a freiné ou au contraire qui t'a aidé dans ton parcours en tant que femme photographe? Et même en termes de créativité, est-ce que tu penses qu'une femme peut être plus créative qu'un homme? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là? Comment toi tu le perçois?
C'est une super bonne question. Putain, j'ai plein de trucs à dire. Alors attends. Déjà, je trouve que faut dire ce qu'il y a, le monde de la photo, il a beaucoup changé ces dernières années et il y a quand même beaucoup plus la parole aux femmes, tu vois. Il y a, tu vois, quand je vois des initiatives de Sony qui font Sony Alpha Female et qui vraiment ils supportent les photographes féminines avec des prix toutes les semaines. Ou, voilà, pour ceux qui connaissent pas, si vous êtes chez Sony, que vous êtes une femme, vous pouvez aller sur la page Facebook Sony Alpha Female et toutes les semaines, il y a un mini concours avec possibilité de gagner 500 dollars. Enfin, en fait, ils ont vraiment eu un gros investissement pour soutenir les femmes. Quand j'avais vu il y a quelques années, bon, je vais pas balancer, tu vois, mais. Quand je voyais des events Nikon et qu'il y avait encore 20 speakers et que c'était 20 mecs, je me dis, les mecs, ils n'ont pas compris ce qui se passait dans notre époque, tu vois, genre, clairement. Voilà, donc il y a des choses qui bougent et c'est vraiment, c'est. Maintenant, je ressens plus du tout ça. Par contre, c'est vrai que quand tu te mets en position un peu publique, donc tu vois, ce qu'on fait maintenant, du podcast, aller faire de la vidéo, aller faire. Aller speaker, aller machin, bah c'est vrai que femme, t'es quand même un peu plus à même à aller te faire bâcher, quoi. T'es quand même un peu plus à même à prendre des remarques sur ton physique, des machins. Moi, j'ai beaucoup eu sur mes lives, mais ça me fait toujours marrer, tu vois, Jean-Michel Retouche qui me dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que voilà, il sait mieux, tu vois. Et j'essaie toujours de le prendre bah, avec un peu de détachement. Je vais toujours écouter les critiques, mais tu vois, genre, il y a des mecs, tu sentais que ça allait toucher dans leur ego, que j'ai l'impression que. Souvent, mon impression aussi, c'est que les photographes masculins, ils sont très techniques, tu vois. C'est beaucoup le matos, le gros objectif, le machin. Et généralement, je vois les femmes, peut-être la différence, elles vont être plus attentives à leurs clients, tu vois, dans les portraits, elles vont être plus connectées à l'émotion et tout. Mais après, c'est pas une vérité, c'est aussi fluide, tu vois. Il y a aussi des meufs très techniques et tout, mais c'est quand même une tendance que je remarque. Après, pour revenir, tu vois, par exemple, là, je trouve que c'est plus équilibré. Il y a encore du boulot, mais c'est plus équilibré. Mais par contre, sur les nouveaux médias digitaux, tout ce qui arrive là, tu vois, l'IA, la 3D, le machin, la VR, la réalité augmentée, le digital, le futur de la photo, tu vois, entre guillemets, même la vidéo, tu vois, bah putain, c'est que des mecs de pays occidentaux, quoi. Et c'est là où je pense qu'il faut. C'est aussi important de rester présente, de savoir ce qui se passe et de suivre un peu ces technologies. Tu vois, le digital, ça reste encore très fermé aux communautés, très fermé aux. Ouais, très. On a besoin de venir aller s'inscrire là-dedans, tu vois. On a besoin d'aller voir ce regard-là, de venir en tant que photographe et de venir partager notre vision du monde. Je pense que c'est important. Donc là, ouais. Voilà. Est-ce que ça répond? C'était une longue réponse, j'espère que ça
Ah, c'est très bien, c'est super. Ah, mais c'est vrai que alors, tu disais au début, toi, tu avais un studio photo. Et c'est vrai que enfin, moi, c'est un truc qui m'a un peu choqué, entre guillemets, hein, quand j'ai découvert cet univers, tu vois, quand j'ai rencontré Milena, que tu connais, qui est déjà passée dans le podcast, Milena Perdriel, qui a un studio à Paris aussi, et qui m'a un peu ouvert les portes de cet univers que je connaissais pas trop, qui était la photographie sociale. Il n'y a que des femmes. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a énormément de femmes, en fait, au final, qui sont photographes de mariage, photographes de couple, de portraits, de bébés, de tous ces trucs. Alors, dans la photo de presse, il y a aussi énormément de femmes. Hein, quand tu vas dans des salons Visa pour l'image et tout, tu regardes beaucoup de photographes indépendantes. Je ne sais pas s'il y a une stat qui existe, mais ça doit pas être moins du 50-50, mine de rien. Et il y a même des femmes qui gagnent des prix, qui font des grands reportages et tout, enfin. Il y a quand même le métier de photographe est vraiment féminisé dans son effectif masse, on va dire. Après, tu as raison, dans la partie peut-être plus élitiste et dans les créateurs de technologie ou les innovateurs ou quoi, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes. Enfin, c'est même sûr quoi, qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Après, toi, comment tu l'expliques ça? Tu utiliserais quoi comme explication? C'est le patriarcat, tout ça? Ou il y a autre chose
Non, bah là, tu vois, par exemple, quand je pense là au milieu que je t'ai décrit, tu vois, c'est, je décris vraiment, par exemple, le milieu digital, tout ce qui se fait en ce moment, surtout ce qui est design interactif, la VR, donc, tu vois, la réalité augmentée, toutes ces choses-là qui vont être incluses à la photo dans quelques années, vraiment, tout ce milieu-là, mais c'est que des mecs blancs de 30 ans, quoi, tu vois, et en fait, ils disent tous la même chose, quoi. C'est ça. Ça s'explique parce que en fait, ils ont accès à l'éducation, ils ont accès à avoir ces formations-là. C'est aussi un truc qui est encore assez, qui est pas encore complètement grand public, tu vois. Donc les mecs qui vont développer des applications, des choses comme ça, ça reste encore niché, tu vois, et dans la création, et dans toutes les créations qui se passent, il y a des gens, hein, qui font des trucs, tu vois, je fais pas une généralisation, mais c'est vrai que pour le moment, c'est hyper masculin, et c'est, je pense que c'est ça, c'est parce qu'ils viennent d'un certain milieu social, ils viennent de certains pays particuliers, et ils viennent d'écoles aussi, qui sont des écoles, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs, par exemple, tu vois, et que c'est pas des milieux qui sont hyper faciles pour les femmes, tu vois, c'est pas du tout qui nous attire a priori, quoi. Donc du coup, tout ce combo, tu vois, quand tu regardes enfin Facebook, Instagram, machin, c'est quand même des mecs là-bas là qui dictent leur avis sur le monde à tout le monde, quoi. Et s'il y avait une meuf, peut-être que les réseaux, ça ressemblerait à autre chose. Enfin, tu vois, je sais pas, j'émets l'hypothèse, ça manque quand même de. Peut-être qu'on aurait le droit de montrer nos tétons, tu vois, qui sait? J'en sais rien, ce serait pas juste un truc sexualisé, enfin. Ouais, donc ça me rend un peu dingue, mais en fait, j'essaye aussi de rester. Je suis pas une féministe en colère, tu vois. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des hommes et je respecte ça. J'aimerais juste qu'il y ait de la place pour tout le monde, et je pense que on gagnerait à ce que tout le monde ait une voix et un truc à raconter, tu vois, dans ce milieu. Je pense que le monde, il a besoin de plus de douceur et plus de sensibilité, tu vois. On y gagnerait tous.
C'est clair qu'il y aurait peut-être moins de guerre. Et
Ouais.
c'est vrai que c'est un comble aussi de voir qu'on peut pas mettre des photos de tétons alors que c'est des mecs qui gèrent le truc.
Ouais, parce que pour eux, en fait, ils n'arrivent pas à le voir autrement que comme un truc sexualisé. Ils arrivent pas, tu vois, leur tête c'est genre il y a un meuf poil, mon Dieu, sexe, tu vois. Ils sont complètement fermés, tu vois. En fait, c'est devenu un truc. Alors que dans tous les pays, enfin, tu vois, en Suède, en machin, en truc, tout le monde va au sauna à poil. Il n'y a aucun rapport à la nudité. Enfin, il n'y a aucun rapport sexuel à la nudité, tu vois. Mais en fait, ils ont tellement de pouvoir qu'ils appliquent cette pensée sur la planète entière, quoi. Moi, ça me rend ouf. Je te dis ça, c'est parole de meuf qui a perdu son compte Insta parce qu'il y avait un téton qui traînait sur une de mes photos un jour, tu
Ouais, dur.
vois. Ouais.
Mais ça, tu connais Peter Thiel?
Non, ça ne dit rien.
Sais, le mec qui a créé PayPal avec Elon Musk, qui a ensuite le premier investisseur dans, c'est le premier investisseur dans Facebook. C'est un mec
Ok.
qui a créé plein de boîtes comme ça, des startups. Et il a
Ah
créé un
ouais.
bouquin qui s'appelle Zero to One, qui est vachement bien, que je te conseille, qui parle
Ok.
d'innovation. Et en fait, dans le bouquin, il parle de ce qu'il appelait la mafia PayPal, la mafia PayPal. Et en gros, la mafia PayPal, c'est tous les cofondateurs et les premiers employés de PayPal qui se sont mis ensemble pour monter PayPal. Et une fois qu'ils ont revendu, tous sont barrés dans d'autres boîtes, ont monté des fonds d'investissement, etc. Tu vois, Elon Musk a monté ensuite Starlink, etc. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas trop de hasard, enfin, il n'y a pas de place du tout au hasard dans le fait que tous les gros gérants de hedge fund ou de boîtes dans la tech, les OpenAI, etc. C'est des gens en fait qui font partie d'une mafia, c'est-à-dire un groupe homogène qui se ressemble, donc même couleur de peau, limite même âge, même horizons sociaux, même background, même études, etc. Et du coup, il y a une reproduction sociale en fait qui est automatisée et volontaire quoi du truc, et qui laisse pas trop place justement à... Alors si, ça va laisser place aux femmes et aux personnes de couleur ou non-genrées, etc. Mais dans le sens où on va
Les
utiliser,
idées,
voilà,
ouais.
utiliser ça pour dire attention, on fait de la diversité, c'est génial, le score EGS, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que y a ce côté de base, on est entre nous et on crée notre truc. C'est un
Ouais,
peu.
c'est clair. C'est ça, tu vois, moi je trouve que la problématique, ça va être comment tu communiques des idées qui sont différentes, comment tu crées de l'art qui est différent, comment tu crées des photos qui arrivent encore à choquer les gens et à remuer à l'intérieur, quand en fait tu vois une telle uniformisation sur les réseaux, tu vois, ça devient quoi ton média, comment t'es visible et tout, enfin, tu vois, c'est un autre problème, mais c'est vrai que c'est aussi très lié, quoi. À quelle sauce on va être mangé si on n'est pas capable de pouvoir dire ce qu'on veut créer, quoi.
Et alors, pour revenir sur la question de la créativité qui est ton expertise, entre autres, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait être plus créatif et parce qu'il est en train de se rendre compte peut-être qu'il est en train de reproduire des trucs. Tu vois, tu parlais des photographes subaquatiques. On avait reçu dans le podcast Delphine Denon, que tu connais peut-être, qui parlait de ça. Elle disait qu'elle faisait de la formation, donc du coup, elle formait d'autres photographes à faire aussi de la photo sous l'eau, tout ça. Et elle se rendait compte que alors ça, je sais plus si elle a dit en off ou en truc, mais qu'en gros, il y a quand même une reproduction de ça, et en fait, c'est une sorte de... Les gens se copient entre eux. C'est un truc qu'on a vu apparaître dans les workshops et dans les stages photos, moi je l'ai vu aussi. Tes élèves deviennent tes concurrents, parce qu'après, quand ils se lancent comme pro, ils copient ton style, tout ça. Comment toi, tu perçois ça, et quel est le conseil que tu donnerais pour aller encore au-dessus, en fait, en termes de créativité?
Ouais, c'est une super bonne question parce que moi, ça me rend ouf. Enfin, ça me rend ouf en fait. Bon, je m'en fous un peu, mais en fait, tu vois, en tant que formatrice, parce que j'ai aussi cette capacité de former, je suis super passionnée, je sais plein de trucs. Et ben, en fait, moi, j'ai aucune volonté d'apprendre aux gens ce que moi je fais. Je trouve que ça sert à rien. Moi, ça, c'est moi, c'est mon histoire, c'est mon œil, c'est mon. Tu vois, c'est mes problématiques, c'est mes trucs. Et du coup, déjà, j'ai pris le parti de faire uniquement des cours, des formations particulières. juste, tu vois, en one-to-one avec un photographe. C'est que des gens qui sont déjà professionnels, hyper avancés. Donc, c'est le genre de personnes que tu décris. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est ne plus ressembler à tout le monde. C'est comment, et là, tu vois, on a une vraie réflexion sur comment tu trouves ta créativité, comment tu trouves ta vraie patte. Comment, après, bah, je le montre aussi les outils. Tu vois, par exemple, si je te fais un cours de Photoshop, je vais pas te faire un cours de Photoshop. Genre, on s'emballera ce que tu te sers de Photoshop comme moi. Moi, ma volonté, c'est comment tu te sers de Photoshop pour toi? Comment tu t'en fous de, il y a 95% des outils, tu t'en fous. Donc, en fait, ça va être analyser ton travail, ton workflow, pour t'expliquer c'est quoi le meilleur workflow pour toi pour que tu arrêtes de perdre du temps et que tu arrives enfin à créer tes idées. Donc, ça, c'est mon humble participation à ça. Et après, sinon, moi, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe en dehors de la photo. Vraiment, arrêtez de regarder d'autres photographes. Ça va être le truc que je vais dire à chaque interview, je crois. Ça va être vraiment, ouvrez-vous sur d'autres trucs. Allez dans un musée, allez chercher votre inspiration, elle est ailleurs. Vraiment, votre inspiration, elle doit être ailleurs. L'inspiration sur la lumière, je sais pas moi. Allez au Louvre, regardez comment c'est éclairé, regardez tous ces trucs-là, regardez l'architecture pour la composition. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui touche votre âme. Mais arrêtez de regarder les photographes parce qu'en fait, ça devient juste de la photocopie, de photocopie, de photocopie. Et c'est là où, ouais, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a un vrai œil, un vrai univers, c'est quelqu'un qui a bossé ce truc plutôt que, bah voilà, les copies. C'est vrai que c'est un peu le... c'est un peu le truc qui se passe, mais c'est marrant, c'est aux États-Unis, c'est partout, quoi. Les photographes, tout le monde se ressemble. C'est marrant.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un problème de corporatiste. Dans plein de professions, tu as ça. Dans le journalisme, il y a beaucoup ça. Tous les journalistes qui sortent d'école, ils reproduisent un schéma. Et puis ensuite, comme ils suivent que des journalistes, qu'en plus ils sont dans un cocon, souvent à Paris, parce que c'est là où il y a toutes les rédacs, ils mangent avec d'autres journalistes, ils boivent des coups avec d'autres journalistes quand ils ont un peu de vie sociale, parce que c'est compliqué d'en avoir une. Du coup, tu reproduis forcément des schémas. Alors que quand de base tu as compris ce que tu as dit là, c'est-à-dire aller sourire aux autres, aller dans des cultures différentes, même voyager, on va en parler peut-être un peu aussi, mais ça t'ouvre l'esprit, le fait d'avoir une culture générale,
Ouais, c'est ça.
c'est vachement bien.
Par exemple, mon milieu, tu vois, moi, c'est pas, c'est, je dirais que c'est 50% les photographes et la retouche. Tu vois, le milieu de la photo tel que tu le connais, tu vois, c'est tous les, là, c'est un petit milieu. Et c'est 50%, ça va être tout le milieu de la création et du design, parce que moi, j'adore être avec des créatifs et c'est, ça me porte quoi, ça me nourrit. Donc, tu vois, ça, des réalisateurs, des illustrateurs, des écrivains, des musiciens, des choses comme ça. Et en plus, c'est des milieux où on peut bosser ensemble. Sans être en compétition. Tu vois, un musicien, il va avoir besoin de moi, on va pouvoir faire un clip ensemble, on va pouvoir faire un projet, on va pouvoir faire un truc. Alors que quand tu te connais que entre photographes, bah, si tu fais des projets ensemble, enfin, il y a tout qui se ressemble, tu vois, tout est machin. Donc, c'est essayer de vous ouvrir un peu, et c'est hyper cool, ça peut que nourrir la créativité, quoi. Et aussi, comme tu disais, être à l'étranger, ça aide aussi à prendre du recul.
C'est effectivement, on l'a pas précisé là tout de suite, mais on est à distance et en ce moment, je suis ultra jaloux parce que tu es à Chiang Mai et que j'adore cet endroit,
Oui,
c'est trop cool. T'es,
ouais,
qu'est-ce
c'est vraiment bien.
que, qu'est-ce qui t'a fait aller en Asie et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'expatrier?
Bah écoute, moi c'était pas. C'était une sorte d'évidence parce que tu vois, depuis que j'ai 18 ans, je suis toujours partie avec mon petit sac à dos toute seule faire des aventures. Mon premier voyage c'était la Thaïlande, et, tu vois, faire des trucs super improbables. D'ailleurs, je voulais être reporter de guerre quand j'étais plus jeune, tu vois, c'était un de mes rêves, voilà. J'ai pas fait parce que je pense que c'était pas pour moi. Je suis beaucoup trop sensible pour survivre à des trucs comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai toujours eu ce contact avec l'étranger. Même mon milieu de la photo, tu vois, je connais peut-être plus d'Américains que de Français maintenant. Et du coup, je me sens très internationale. Et du coup, je suis partie il y a 4 ans. Bon, j'ai eu des hauts et des bas. Je suis un peu restée coincée pendant le Covid et tout. Mais il y a des choses qui me manquent de la France. Mais il y a des choses qui ne manquent pas du tout. Et je trouve que le fait d'être à l'étranger, ça permet d'avoir plus de recul et plus de d'être moins dans cette société. Je sais pas ce que tu en penses, un peu grincheuse là, où tu as l'impression que tout est un peu. Et en fait, je suis plus entourée. Du coup, bah, c'est ça qui me manque. C'est du coup, je suis moins entourée dans mon quotidien de pur créatif. Mais par contre, je suis entourée beaucoup plus d'entrepreneurs, de gens à leur compte, de gens qui montent des business et tout. Et ça, c'est vrai qu'au quotidien, c'est hyper. Motivant et hyper libérateur, quoi. Et puis bon, l'expatriation, c'est un peu. c'est un peu spécial, tu vois. Je pense que ça permet de rencontrer des gens qui ont aussi une ouverture sur le monde qui est complètement différente. Moi, je me sens plus acceptée à l'étranger, tu vois. J'ai l'impression d'être un peu chelou quand j'étais en France, alors qu'ici, oh, tout le monde est chelou, tu vois, c'est normal.
Et à Chiang Mai, comment t'as fait? T'as pris un condo pour plusieurs mois et
Ouais, c'est ça. Bah là, j'ai que un visa de 2 mois, tu vois. Moi, je bosse à distance, donc j'ai juste un visa de touriste. Ouais, j'ai un petit appartement, c'est très très cool. Je vis en coworking. Enfin, en fait, c'est une vie quotidienne normale. C'est pas un truc de voyage, de dingue. C'est plus les week-ends, je vais aller visiter un peu. Mais sinon, j'ai vraiment une vie de travail assez normale. Et puis là, je retourne à Bali dans 2 semaines. Et là, j'ai un visa de résident et je peux rester plus longtemps.
D'accord. Tu te considères comme digital nomade ou pas? Truc à la mode?
Je sais pas trop, parce que digital nomade, j'en vois plein là. Ils sont quand même plus. Ils bougent beaucoup, hein, tu vois. Ils bougent beaucoup. Moi, j'ai quand même passé 2 ans à Bali et tout, donc bon, mon nomadisme, il est quand même un peu tranquille. Et puis en plus, j'ai une valise et demie, c'est un studio photo, quoi. Donc laisse tomber, quel enfer. J'ai un caisson sous-marin, j'ai machin. C'est 4 trépieds, laisse tomber le nomadisme en carton, quoi. Voilà.
Bah avec l'IA, ça sera fini, t'auras plus besoin de ça.
Oh, c'est si triste.
Tu seras plus
Ouais,
légère, tu seras vraiment mode sac à dos.
peut-être. Je sais pas trop. Ouais, écoute. Ouais, se balade avec ses fonds, ses trépieds, ce qu'on sait en son marin, laisse tomber. Ouais, tu bouges pas tous les 2 mois.
Excellent. Bah, pour nos auditeurs, je vous invite à écouter le podcast qu'on avait fait avec Stan de Marketing Mania, la chaîne Marketing Mania, et lui, il est basé à Chiang Mai aussi.
Ah, il est à Chiang Mai, je pense qu'il était à Bangkok. Ok,
Il a
ouais.
déménagé depuis qu'il a eu son premier ou deuxième enfant, je sais plus.
Ok.
Moi, je l'ai rencontré à Bangkok, on avait fait l'interview là-bas, mais après, il avait déménagé pour Chiang Mai et écouter l'interview parce qu'elle est vraiment géniale. Alors, c'est pas un photographe, il parle pas de photos, mais il parle de marketing, de vente, de personal branding, de comment on se positionne et comment on s'expatrie aussi. C'est vachement intéressant. Quand on parlait,
Ouais.
tu disais s'inspirer de gens complètement différents, bah, c'est le but de ce podcast, il y a des gens qui sont là, mais on ne sait pas trop pourquoi ils sont là pour parler de photos, mais en fait, si, ça a du
Mais
sens.
on retient. C'est ça, ouais. Et bah du coup, tu vois, ce genre de profil, moi, c'est des gens que je rencontre tous les jours et c'est hyper inspirant, tu vois, plus que s'entourer de photographes qui font genre je sais pas combien je price mes paquets, je peux pas facturer autant en France, tu vois, ce genre de truc. Je voudrais pas lancer un débat, mais tu vois, je trouve qu'on est vachement influencé par les gens qui nous entourent et il faut en avoir conscience.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis en plus, une relation avec un photographe, c'est compliqué aussi parce que tu l'as dit, il y a ce côté concurrence sous-jacente, quoi. Et même si tu ne bosses pas sur la même thématique, je sais pas si on peut pas même parler parfois un peu de jalousie, tu vois, sur le côté.
Toi, tu ressens ça? Ah, c'est marrant. Alors, moi, je ressens ça, mais pas du tout. Je ressens pas du tout de concurrence et je me sens. Tu vois, par exemple, tous mes élèves, ils m'ont dit un truc qui m'a vachement choquée. Ils m'ont dit, mais en fait, tu caches rien, t'es vachement généreuse et c'est hyper rafraîchissant. Et j'étais là, mais pourquoi tout le monde n'est pas comme ça, en fait? Tu vois, genre, cacher des infos et faire des secrets. Je sais pas, moi, c'est pas du tout mes valeurs et je trouve pas que ça soit ça qui aide à s'élever en fait. Je trouve qu'on s'élève plus vite quand on aide les autres en fait. Mais ça, c'est mes valeurs perso, tu vois.
Ah mais je suis carrément d'accord et justement ce message, il n'y a pas longtemps j'ai reçu un comme ça aussi pour dire merci, tu fais aucune rétention d'informations.
Ouais, c'est ça.
Mais bon après ce qui s'est passé c'est que, enfin, je te raconterai peut-être en off un jour, mais
Allez.
la fin est pas cool, mais en tout cas c'est vrai que c'est un truc qui revient sur le fait de, enfin tu le vois en termes d'entraide de photographes en France, c'est pas non plus, enfin ça se bouscule pas trop quand... Justement, quand tu es là pour proposer des trucs même gratuits, pour proposer aux gens de les aider, il y a quand même une méfiance, genre, ok, qu'est-ce que tu veux me vendre? Tu vois.
Et c'est ok, enfin, si tu veux vendre un truc, vends un truc. Ben, tu vois, profite du produit gratuit et achète pas ce que tu veux après. Enfin, tu vois, c'est quoi le problème? T'as toujours vendre un truc, c'est mal. T'es là, genre, merde, mais attends, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai des trucs à t'apprendre, soit t'en veux, soit t'en veux pas. C'est ok, tu vois, c'est ça en fait. Faut aussi apprendre à être un peu plus relax. Tu sais, genre, j'ai des gens qui sont venus me critiquer sur mes lives Adobe, tu sais. Hey, les mecs, il est mardi, il est 14 h, tu regardes un live, c'est gratuit. Je t'apprends Photoshop gratuitement. T'es bien critiqué, genre t'as pas autre chose à foutre. Genre soit tu fermes ta fenêtre, tu retournes bosser, soit t'es content d'apprendre un nouveau truc. Mais tu vois, c'est ok quoi. Tu vois, c'est ça en fait, c'est faut garder un peu de distance vis-à-vis de ça, je trouve.
Ouais, c'est très français ça, malheureusement, plutôt.
Ouais, c'est pour ça, moi je le ressens plus trop, tu vois, comme je suis à l'étranger, j'ai que les gens merveilleux qui viennent me voir, et du coup, bah voilà, plus de gens merveilleux, s'il vous plaît.
Là, c'est génial. Est-ce que tu as un dernier conseil pour terminer cet entretien à partager à peut-être un ou une jeune photographe qui aimerait se lancer et qui a un peu peur, voire même voyager d'ailleurs, hein. Ça fait flipper pas mal de monde, hein, de partir comme ça en Thaïlande pendant 2 mois, 3 mois, un an, on ne sait pas quand. Qu'est-ce que tu aimerais partager?
Moi, je pense que le truc, c'est qu'il faut se faire confiance et il y a que soi qui peut savoir ce qu'on veut vraiment. Et du coup, pas écouter les autres, c'est quand même pas mal. Bon, des fois, ils ont des avis valides, mais tu vois, moi, je me rappelle quand je me suis reconvertie en photo, parce que j'avais quand même une formation de graphiste à la base, bah, je me rappelle que tout le monde me disait: non, mais il y a déjà plein de photographes à Paris, blablabla. Et moi, j'avais ce feu à l'intérieur et j'avais cette certitude. J'étais là, ouais, mais il n'y a pas moi, en fait. Moi, j'ai des trucs à apporter, en fait. J'ai des trucs à avoir. Et tu vois, pour voyager, c'est, bah, il y a autre chose, en fait. Il y a des trucs à vivre. Et oui, ça fait flipper. Et franchement, ouais, toutes mes veilles de voyage où je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos, je les ai passées à pleurer en flippant ma race. Et généralement, j'arrive dans l'avion et je fais: ah, mais ça y est, c'est trop bien, tu vois, pourquoi j'ai pas fait avant? Je pense que toutes les expériences, en fait, elles vous apprennent des trucs. Et quitte à se foirer, autant se foirer en faisant ce qu'on aime, non? Je sais pas.
Non, mais c'est un excellent conseil. T'as raison. C'est
Ouais.
vachement bien.
Ouais, quitte à se foirer. De toute façon, on peut se foirer, tu vois, c'est ok, il faut juste accepter ça. Autant faire ce qu'on a envie de faire.
C'est clair. C'est clair. Bah écoute, merci pour cet échange.
Eh ben, merci, c'était hyper intéressant.
Super. Je nul doute que je pense que ça va intéresser aussi pas mal de monde. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt.
Oui, et eh ben, merci à tous et à tous. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je suis super curieuse de savoir ce que vous pensez sur ce dont on vient de parler. Et puis, bah, passez une bonne semaine. Je vous envoie plein de bisous si vous voulez bien. Et puis, faites des photos cool. Allez.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Et si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.